Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, je me présente donc à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, pour mettre en avant les intérêts des ouvriers, des employés, les intérêts des travailleurs condamnés au chômage et au petit boulot, les intérêts des travailleurs en invalidité ou à la retraite. Je suis candidate pour que les millions de femmes et d'hommes qui font tourner l'économie dans des conditions de plus en plus dures, en étant de moins en moins payés, puissent dire qu'ils existent, qu'ils sont les forces vives de ce pays, qu'ils ont des droits pour lesquels ils veulent se battre. Quand on appartient au monde du travail, voter pour Le Pen, Fillon, Valls, Montebourg, Hamon ou Macron, c'est voter contre son camp. C'est voter contre ses intérêts et c'est tendre le bâton pour se faire battre. Parce qu'ils aspirent tous à gouverner pour le compte de la bourgeoisie. Et ils sont tous socialement étrangers à la classe ouvrière. Et malgré leur discours hypocrite en période électorale, ils lui sont hostiles. Fillon vise les voix des beaux quartiers. Et il a le mérite, si l'on peut dire, d'annoncer la couleur. S'il est élu, ce sera la loi El Khomri puissance 10, la fin de la sécurité sociale, la suppression de centaines de milliers de postes de fonctionnaires. Mais regardez comment les candidats du Parti Socialiste cherchent encore à nous balader. Pendant ces 5 dernières années, ils ont fait reculer l'âge de la retraite en allongeant la durée de cotisation. Ils ont augmenté la TVA, ils ont aidé le grand patronat à baisser les salaires, à augmenter le temps de travail, ils l'ont aidé à licencier. Et lorsque les travailleurs ont réagi, en se battant, par exemple, contre les licenciements ou contre les fermetures d'usines, à BSA Aulnay, à Goodyear, à Air France, ou contre la loi travail, eh bien ils les ont traités de délinquants et de voyous. Et les voilà, aujourd'hui, qu'ils nous reparlent de justice sociale. Ils ont même, je pense aux candidats socialistes, redécouvert l'existence des ouvriers et de nos problèmes de salaire. Montebourg parle de la fiche de paye, Hamon du revenu universel, Valls du revenu décent et Payon essaye de vendre son bouclier fiscal. Autrement dit, pour augmenter le pouvoir d'achat des classes populaires, ils prévoient tous de jeter leurs petites piécettes aux plus pauvres. Eh bien, on n'a besoin ni de leur boniment, ni de leur charité. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. La plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records. Les seules entreprises du CAC 40 ont distribué 56 milliards de dividendes à leurs actionnaires en 2016. La fortune de Bernard Arnault, qui s'élève à 39 milliards, a augmenté de 7 milliards en une seule année. Alors ce n'est pas l'aumône que nous voulons. C'est une politique qui réponde à nos intérêts. C'est avoir un salaire, avoir un travail et un salaire. Le droit d'être soigné dignement, d'être logé. Le droit pour nos enfants d'accéder à une bonne éducation et le droit d'avoir une retraite décente. Et ceux qui, parmi les travailleurs, se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ses politiciens, se trompe. Le Pen est une candidate bourgeoise attachée à l'ordre capitaliste. Comme les autres, elle reprend tous les mensonges patronaux en expliquant qu'il faut baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité. Autrement dit, sous prétexte de rendre compétitives les entreprises françaises, eh bien elle justifiera comme tous les autres l'allongement du temps de travail, le blocage, voire la baisse des salaires, la réduction des cotisations patronales et de leurs impôts. Elle n'hésitera pas, comme les dirigeants britanniques après le Brexit, comme Trump aux États-Unis, à baisser encore l'impôt d'imposition sur les sociétés au nom de la compétitivité de la France. Tous les sacrifices que l'on nous impose depuis des années, eh bien on nous les imposera désormais au nom de la du souverainisme et du protectionnisme. Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidat anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs et sur les plus pauvres, à condition bien sûr qu'ils soient français. C'est une démagogue qui se sert des préjugés racistes, de la xénophobie et qui les alimente pour ne pas dénoncer les vrais responsables du recul de la condition ouvrière. Elle s'indigne de ce que l'on donne 11 euros par jour à un demandeur d'asile. Pas qu'un PDG comme Carlos Ghosn chez Renault-Nissan gagne 45 000 euros par jour. Pas qu'une Madame Bettencourt, l'héritière de L'Oréal, empoche 1 million par jour sans rien faire. Elle se dit, vous l'avez peut-être entendu, révulsée qu'on héberge des migrants plutôt que des SDF français. Elle ne s'indigne pas des salaires trop bas, des boulots trop précaires, des licenciements qui conduisent un nombre croissant de travailleurs à la rue. Elle ne dénonce pas les bétonneurs à la Bouygues ou Vinci, dont la politique ne permet pas de construire les logements nécessaires et accessibles à un salaire d'ouvrier. Non, elle nous explique qu'il y a deux sortes de sans-abri et que l'une peut crever. Alors Le Pen, Montebourg, Hamon, Fillon, Valls sont en rivalité pour la bourgeoisie, mais ils se préparent tous à servir la bourgeoisie. Eh bien, à l'opposé de tous ces gens-là, je suis candidate pour la dénoncer. Je suis candidate pour combattre les Bettencourt, les Dassault, les Peugeot, les Michelin, parce que leur prospérité s'édifie sur le dos de l'ensemble du monde du travail. Parce que 20% de plus pour le grand patronat, c'est 20% de moins pour les travailleurs. Parce que l'augmentation de leur fortune se fait sur la baisse de nos salaires ou de nos retraites. Ce sont leurs sinécures ou nos emplois. C'est le pouvoir du grand capital ou le pouvoir des travailleurs. Il n'y a pas d'entre deux, il faut choisir son camp. Et je me présente pour faire entendre les intérêts des exploités. Il ne s'agit pas seulement des intérêts des salariés ou des chômeurs. Il s'agit des intérêts de tous ceux, artisans, commerçants, petits agriculteurs, auto-entrepreneurs qui doivent travailler pour gagner leur vie. Et qui ont à se battre, eux aussi, en permanence contre le grand capital qui les étouffe. C'est le cas des chauffeurs Uber contre cette plateforme, donc. C'est le cas des agriculteurs contre la grande distribution. Et il ne s'agit évidemment pas seulement des travailleurs français. Je le précise, parce que dans cette élection, la démagogie nationaliste empoisonne tous les débats. C'est une spécialité de Le Pen qui oppose systématiquement les travailleurs les uns aux autres en fonction de leur nationalité et de leur confession, qui sème la haine et le rejet de l'autre et favorise, en retour, le repli communautaire. Eh bien, il faut s'y opposer de la seule façon possible, au nom de l'idée que nous faisons tous partie d'un même camp, le camp des travailleurs. On nous rabâche que notre identité dépend de notre origine, de notre nationalité ou de notre confession. Mais un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignants, des caissières, des enseignants. Alors, il faut serrer les rangs, rejeter ceux qui veulent dresser des murs entre nous et affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Faire entendre nos intérêts à l'opposé de la politique patronale, affirmer nos revendications, nos objectifs en tant qu'exploités, et ce qu'il y a de plus utile à faire dans cette élection. Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors il n'y a pas de suspense. Les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en mai prochain sera un ennemi des travailleurs. Pour nous, le match est truqué. Il ne faut pas marcher dans cette duperie électorale. Mais puisqu'on nous donne la parole au premier tour, ne laissons pas le monopole à ces politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Faisons-nous entendre. Nous avons notre propre politique à défendre. Une politique indépendante, une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat et à sa suite tous les politiciens prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et sans commande garantie. Eh bien nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas des carnets de commandes. Nous ne sommes pas des machines qu'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois. Même quand on a perdu son travail, il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. Et la première mesure, de bon sens, c'est d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez Peugeot Citroën. PSA a réalisé sur les 18 derniers mois 2,4 milliards de bénéfices et a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards d'euros de profit chaque année et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore 650. Et c'est vrai dans la plupart des grands groupes capitalistes. Ils se débrouillent toujours pour ne pas parler de licenciement. Ah, le mot licenciement, c'est devenu le mot tabou. Mais c'est autant d'emplois qui disparaissent au final. Et cela fait des dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Alors il faut commencer par stopper cette hémorragie-là, c'est-à-dire par arrêter tous ces grands fabricants de chômeurs. Bien sûr, les salariés des plus petites entreprises, je sais qu'ils sont concernés aussi par les licenciements, mais leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Alors il faut imposer que tous ces grands groupes, que les banques soient mises à contribution et payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Et parallèlement, eh bien, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là, pour tous ceux aussi qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, que ce soit dans le privé ou dans le public, la charge de travail a été accrue. Les horaires de travail, auxquels il faut aussi ajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement le contraire de ce que Renault est en train de faire en imposant un second plan de compétitivité avec heures supplémentaires et samedi travaillé obligatoire. Et puis, regardez ce qui se passe avec cette épidémie de grippe. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières, trop d'aides-soignantes dans les hôpitaux ? Regardez ce grand gâchis qu'est l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Et pour ce qui est des logements, il en manque 1 million. 1 million qui soit accessible à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, d'ingénieurs ? En réalité, il y a nombre de besoins à satisfaire dans la société, et donc il y a autant d'emplois à créer. Certains nous expliquent qu'avec la modernisation des moyens de production et les gains de productivité, il y aura de moins en moins d'emplois. Mais c'est un raisonnement de patron. Parce que ces robots et ces gains de productivité devraient permettre au contraire de soulager les salariés, de baisser les cadences et de baisser le temps de travail pour tous. Mais cela suppose évidemment que l'on fasse passer les intérêts des travailleurs et de l'ensemble de la population avant les profits d'une minorité. Si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'on comptabilisera, mais 7, 8 millions. La répartition du travail entre tous sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Parce que le chômage, c'est un fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, bien sûr, mais aussi il marginalise. Il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre et toute la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, un travail, un salaire pour tous, c'est la priorité. À côté de cela, il faut aussi augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats, ceux qui sont susceptibles d'accéder à l'Élysée et qui monopolisent la parole politique, nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Le Pen aussi explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé d'augmentation du SMIC payée par les entreprises, parce qu'elle ne veut surtout pas leur créer de difficultés au patronat. Et les difficultés qu'ont les millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner, à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas. Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent de ces difficultés-là. Eh bien, ce n'est pas notre cas. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois pour le SMIC. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement, et parfois bien davantage, 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau, 50 ou 100 euros pour les assurances, pour la complémentaire santé. Il faut payer aussi l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 4 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Et en plus de cela, il faut payer les impôts. Les impôts sur le revenu et la taxe d'habitation. À la fin, il reste quelques dizaines d'euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante, ou encore quelques sorties, l'accès aux loisirs et à la culture. Et avec les enfants, c'est encore bien plus serré. Alors oui, c'est 1 800 euros net. C'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et les pensions. Quant aux minima sociaux, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien, ils doivent être transformés en salaire. Parce que, je le redis, tout le monde doit pouvoir être intégré à une activité utile. Ces 1 800 euros par mois ne sont en réalité qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC, qui est aujourd'hui à 1 154 euros net, était à 1 000 euros net. Et déjà, à l'époque, il avait pris du retard sur l'inflation. En 10 ans, le SMIC a augmenté donc de 15%. Et savez-vous de combien ont augmenté les salaires des grands PDG ? De 65%. Et c'est, on ne parle pas des mêmes salaires. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation de tous les salaires de 300 euros. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie. Celle des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et des taxes. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation. Mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, sa facture d'électricité ou d'assurance avec celle de l'année dernière pour voir que les prix augmentent. Alors il faut que nos salaires et les pensions suivent. Alors de bonnes âmes, très bien payées, elles, m'ont déjà expliqué que ce programme était complètement utopique et qu'il forcerait nombre d'entreprises à mettre la clé sous la porte. Je parle de 1 800 euros par mois et on me parle d'utopie. C'est donc de l'utopie que d'espérer vivre sans avoir à compter le moindre euro. C'est de l'utopie d'espérer pouvoir se chauffer comme il faut, payer leurs études à nos enfants, le permis. Mais les Carlos Ghosn, les Tavares, tous ces PDG des grandes entreprises, les Arnaud, les Bettencourt, avec leurs dizaines de milliards, ils ne vivent pas dans l'utopie, eux. Ils vivent dans le monde réel, dans notre monde. Alors dire que 1 800 euros est de l'utopie, eh bien, c'est un choix de classe. S'il y a une utopie dans cette affaire, c'est d'attendre cette augmentation d'un futur président de la République. Pour y parvenir, eh bien, il faudra renouer avec des luttes collectives puissantes, imposer un rapport de force avec le patronat de telle façon qu'ils prennent peur et qu'ils lâchent ces 1 800 euros. La société est riche. Elle est très riche. Alors, il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune, qui a été accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi imposer la transparence sur les comptes des entreprises. Le grand patronat a érigé le mensonge et l'opacité en art de gouverner. Et même s'il est de bon ton pour tous les politiciens de parler de transparence et de dénoncer par exemple l'évasion fiscale, eh bien ils continuent de défendre le secret des affaires et d'interdire aux salariés de divulguer les informations dont ils disposent sur les comptes des entreprises. En avril dernier par exemple, les députés européens du Parti Socialiste, de l'UDI, du MoDem, de la droite et du Front National se sont retrouvés tous ensemble pour voter la directive européenne sur la protection du secret des affaires. Et pour cause, si les travailleurs avaient accès à toutes ces comptabilités, eh bien ils mesureraient qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes qui font l'appui et le beau temps sur l'économie. En levant le secret bancaire et commercial, eh bien on permettrait aux comptables, aux secrétaires, aux magasiniers, à tous les travailleurs de communiquer les informations qu'ils ont. Il y a bien des salariés qui sont révoltés par les agissements de leur direction, parce qu'ils savent que ces agissements sont contraires aux intérêts des travailleurs, de la population, de l'environnement. Et ils sont les premiers, souvent, à tirer la sonnette d'alarme, simplement parce qu'ils sont aux premières loges et qu'ils voient ce qui se passe. Alors, il faut leur donner les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Il faut supprimer le secret des affaires. Cette mesure est un objectif essentiel, car elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir, ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour imposer les intérêts des travailleurs. Notre programme, ce n'est pas comme tous les autres candidats un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui doit nous orienter pour nos combats quotidiens. C'est un programme de survie pour les couches populaires parce qu'il découle de nos besoins. Et c'est le plus radical parce que nous sommes les seuls à nous engager totalement du côté des travailleurs parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Nous la combattons. Et nous sommes prêts à la combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'exproprier en réquisitionnant toutes ces grandes entreprises. Et puis, contrairement aux autres candidats, eh bien, nous ne considérons pas la compétitivité, le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système qui a été établi par une minorité pour le profit d'une minorité. Nous pouvons défendre ces intérêts vitaux pour le monde du travail, tout simplement parce que nous sommes communistes. Alors j'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat, il commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. On ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos amis, nos faux amis, nos ennemis. Tout cela se forge dans le combat des idées et le combat politique. Le premier tour de cette élection donne l'opportunité d'avancer dans ce sens-là, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat à armes égales avec les partis bourgeois. C'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut aussi qu'ils se maintiennent après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes aux intérêts irréconciliables et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirmera que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Voter, ce n'est pas encore construire un parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, cela participe de la construction du parti. Alors, votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire un parti pour les travailleurs. À gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas la même signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique qui est plaisante aux oreilles. Mais concrètement, elle ne débouche que sur peu d'engagements concrets. Mélenchon promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1 326 €, les vraies 35 heures. Mais même ces quelques promesses à destination des travailleurs sont des promesses en l'air. Car tant qu'on ne dit pas comment on les imposera au grand capital qui décide de tout aujourd'hui, tant que l'on ne se dit pas prêt à arracher ce pouvoir à la minorité capitaliste, eh bien on parle pour ne rien dire. Car c'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande, en son temps, l'avait fait superbement. Mais il faut dire si on est prêt ou pas à la renverser. Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie sur la propriété privée des moyens de production. Et puis avec d'autres, y compris avec Le Pen et Montebourg, Mélenchon se veut le champion du souverainisme, de l'indépendance de la France, des intérêts de la France. Par exemple, en renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, nous dit-il. Le pouvoir reviendrait au peuple. Tout ça, ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, Sanofi, le grand maître des médicaments. Quand on est exploité, on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France dans une 5e ou dans une 6e république, ou qu'elles se décident à l'échelle de l'Europe. On est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire entier ou pas, de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout. Pour le choix de son métier, son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail. Alors parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe. Alors laissons ces mots d'ordre de souveraineté du peuple, des intérêts de la France, aux partisans de la bourgeoisie. Et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Alors, bien sûr, Mélenchon fera plus de voix que moi. Compris parce qu'il est compatible avec le système. Parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant une énième fois à un sauveur suprême, sont bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de milliers de voix qui porteront qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement qui n'existe que pour le porter à la présidentielle, eh bien, notre campagne et le vote pour faire entendre le camp des travailleurs nous aidera à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail ne doit plus être synonyme de victime. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. Nous, ouvriers, employés, enseignants, cheminots, femmes de ménage, fonctionnaires, caissières, nous faisons tout tourner. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits. Les progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Oui, nous pouvons être fiers d'appartenir à la classe des travailleurs. Nous sommes indispensables. La bourgeoisie, les actionnaires et les PDG prétendent être la clé de voûte de ce système. Mais ils ne sont rien sans nous. À quoi pourraient bien servir les milliards des Arnaud, des Mulliez, si nous ne faisons plus marcher les trains et les avions, si nous ne faisons plus tourner les hôtels et les restaurants luxe, si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux et leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune? Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous fêtons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire. Car le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, eh bien, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population. Il a réquisitionné les logements pour que tout le monde ait un toit, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associées à tous les niveaux de pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé cela? Même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant et caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien, cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, les travailleurs ont de quoi être fiers de ce que leur classe a accompli dans le passé. Et il ne s'agit pas seulement du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Parce que les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle. Il pousse toute la société à la déchéance morale. Regardez comment les migrants sont traités. Aujourd'hui, la justice a même inventé un nouveau crime. Le crime d'humanité. Comme le montrent les poursuites qui ont été engagées contre ceux qui ont donné à manger et un toit aux migrants dans la vallée de la Roya. Alors oui, la société s'enfonce dans la barbarie. quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est celle des murs, des barbelés que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. D'ailleurs, là-dessus, tous les candidats, principaux candidats, sont d'accord. Il faut des frontières de plus en plus étanches, disent-ils. Et ils nous répètent tous en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais ce n'est pas la misère pour tout le monde. Dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. En réalité, ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail et un salaire à tous, qu'on ne peut pas espérer avoir tous une retraite à partir de 60 ou 62 ans. Mais la misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs bombes et leurs manœuvres. Ils la fabriquent ici par le chômage et la précarité. En tant qu'exploités, nous sommes tous des migrants potentiels. Alors, notre intérêt est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour partager la misère, c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition économique entre les peuples, rien à gagner aux guerres, qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toutes nationalités, de toutes les religions, de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une seule politique qui les unit. C'est celle qui représente leurs intérêts, celle de se libérer de l'exploitation. Alors, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme qui pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre et qui fait aussi le lit de la délinquance et de ce fanatisme religieux, eh bien les travailleurs représentent la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales, du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une société communiste. Alors oui, nous pouvons être fiers de nous revendiquer de ce camp. Évidemment, ce n'est pas la prise du pouvoir par les travailleurs qui est en jeu dans cette élection. Il s'agit que ceux qui ne se résignent pas à la situation, qui sont conscients d'avoir à se battre pour leurs intérêts de classe, se manifestent politiquement et constituent un point de ralliement. Depuis des décennies, l'élite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, que la classe ouvrière n'existe plus. Aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi? Nos familles, nos bars d'immeubles, nos quartiers, nos villages sont composés de rentiers? Non, de femmes et d'hommes qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien, elle produit elle aussi des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient fiers d'être indépendants il y a un an, deux ans, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés en tant que salariés. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle a disparu, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a pourtant vu intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et ce n'était encore qu'une fraction de la classe ouvrière qui a été mobilisée. Il y avait beaucoup plus de réserves dans les entreprises. Eh bien, il faut aussi que cette classe s'exprime sur la scène politique. On nous met dans la tête que l'élection doit servir à élire quelqu'un. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête, ceux qui ont une dynamique, comme on dit. Eh bien, évidemment, je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président qui nous portera des coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement, le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez à cette élection-là? Dans cette élection, c'est la même chose. On nous demande d'élire le prochain président de la République qui fera encore reculer les retraites, qui imposera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui les aidera, qui aidera donc le patronat à baisser nos conditions de vie et de travail. Il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, mais d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature, sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté Hollande en 2012 et il faudrait recommencer avec un autre? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire, pour espérer se protéger, est un leurre également. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier tant qu'il ne renouera pas avec les luttes collectives. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ou de radicalisme, c'est se soumettre et se déserter. Car si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera? Personne ne mènera le combat à notre place. Alors parfois, on ne trouve pas le moyen de se battre, de faire grève, de manifester ou simplement de protester, parce qu'on est seul, ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne, est un geste à la portée de tous. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, la moindre voix compte et peut porter. Alors, il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Candidate, hein, les institutions sont faites comme cela, il fallait un nom et mes camarades m'ont choisi pour mener cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois qu'on me donnera la parole. Mais en quelques minutes, je ne ferai pas de miracle. Je convaincrai surtout les convaincus et je toucherai peut-être aussi tous ceux qui sont révoltés par la situation mais qui doutent de leurs convictions et qui n'osent plus avoir d'idéal. Ce n'est pas rien. Une campagne comme celle-ci, relayée au niveau national, permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi ces millions, il y en a des centaines de milliers qui partagent à un degré ou à un autre nos idées. Eh bien, ma candidature leur permettra de se rallier, de rompre leur isolement, déjà, et de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions. C'est déjà quelque chose d'important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus, qui s'interrogent. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes, tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent même plus entendre parler de politique ou de vote. Ils sont dans notre famille. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher. En prenant le temps de la discussion, il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer, en tant que travailleur, salarié, chômeur. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer des idées parmi les nôtres est important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent, car elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elle reflète la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés. Et tôt ou tard, ils auront besoin de ses idées. Alors, rien n'est à négliger, toutes les discussions seront utiles. Et je le précise, n'attendez pas que j'apparaisse plus dans les médias, parce que je serai absente des grandes émissions politiques jusqu'au tard 15 derniers jours, où ils seront un peu contraints de m'inviter. Parce que tout simplement, on ne fait pas partie du paysage politique, et quelque part, eh bien, c'est une reconnaissance. Oui, nous ne faisons pas partie de ce personnel politique qui s'accommode de cet ordre social injuste, et nous n'aspirons pas à en faire partie. Alors, voilà, pour que ce soit une bonne campagne, il faut aussi que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit aussi votre campagne. Et pour finir, essayons de nous transporter en mai prochain, au lendemain de l'élection. Qu'est-ce qui changera pour nous? Nous irons au travail, pour ceux qui en ont un, beaucoup iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confronté au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confronté à son banquier, à son propriétaire qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Rien de fondamental n'aura changé pour nous. Parce que les élections ne changeront pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les plus riches auront un nouveau président de la République à leurs pieds. Et pour nous, eh bien, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière.